Et c'est le journal de Sébastien Legenny. Bonjour Sébastien.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la droite française chaos après un échec retentissant aux européennes. À peine 8,5% des voix, très loin de ce que prédisaient les sondages. Après la gauche, le gouvernement, c'est donc la droite traditionnelle qui vole en éclats. La recomposition du paysage politique français, acte 2. Reportage et analyse à suivre. La droite qui s'effondre, mais les Verts créent la surprise. Le Rassemblement National est en tête, La République En Marche est deuxième juste derrière, des résultats sur lesquels on revient toute la matinée sur Inter. Dans le reste de l'actualité, la lourde défaite de Manuel Valls au municipal à Barcelone, le début du procès de Yann Bailey accusé du meurtre de Sophie Toscan du Plantier et les premiers pas réussis de Roger Federer sur le central de Roland-Garros, de retour après 4 ans sous les vivas de la foule.
Et je vous rappelle que Brice Teinturier, le directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos, est l'invité de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
Et on commence, Sébastien, par l'une des grandes surprises de ce scrutin européen. C'est la débâcle de la droite, son pire score depuis 40 ans.
8,48% des voix exactement pour les Républicains, la liste emmenée par François-Xavier Bellamy. Pire encore que le résultat de Nicolas Sarkozy en 1999 et ses 12,8%. Une vraie claque pour la droite qui souhaitait pourtant remonter la pente. Là, elle ne parvient même pas à se hisser sur le podium, quatrième parti derrière les Verts. Ambiance plombé donc hier soir au siège du parti rue de Vaugirard à Paris, où l'on tâche vaille que vaille de préserver l'unité. Le reportage de Laurent Sénéchal.
Pour les militants républicains, la défaite est dure à avaler et le coupable est tout trouvé.
On se prend une grosse claque.
C'est pas possible cette histoire. C'est Emmanuel Macron qui a fait le résultat de cette élection. Il est président de tous les Français et pas seulement de LRM.
On nous a amenés dans un duel extrême droite, La République En Marche.
Même son de cloche à la tribune dans la bouche du patron du parti, Laurent Wauquiez. Le responsable, c'est Macron.
Emmanuel Macron a fait un choix lourd de conséquences en réduisant le débat européen à une croisade contre Marine Le Pen, pleine d'arrière-pensée. Nous avons 3 ans pour faire naître de l'espoir.
Le problème pour Laurent Wauquiez, c'est qu'il a imposé sa tête de liste, le conservateur François-Xavier Bellamy. Un bon conférencier ne fait pas forcément un bon candidat, estime un poids lourd du parti. C'est un échec, disent en cœur Gérard Larcher, président du Sénat, et Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs LR. Laurent Wauquiez doit-il partir? Non, estime Jean-Michel, un militant de la première heure.
Non, surtout pas. Je peux vous assurer que nous sommes un certain nombre de fidèles qui, à partir de demain, défendront Laurent Wauquiez. Parce que c'est l'homme de la situation, qui vous allez mettre à la place?
C'est aussi le point de vue d'un cadre du parti. Certes, Laurent Wauquiez a perdu lourdement son pari, mais heureusement pour lui, il n'y a pas de plan B crédible à ce stade.
La défaite Bellamy à retrouver sur franceinter.fr.
7h33, Sébastien, la recomposition du paysage politique français entamée en 2017 avec la présidentielle s'est donc poursuivie hier avec les européennes.
Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Journaliste au service politique d'Inter. Les partis de l'ancien monde sont donc menacés de disparition après l'écroulement du PS, c'est au tour des LR.
Eh bien, on l'a entendu, les militants LR ont raison, Emmanuel Macron est le responsable. Il a contribué à l'effondrement du parti Les Républicains, troisième force avec 20% à la présidentielle, sous la barre des 9% ce matin. La reconstruction sera longue et exigeante, a reconnu Laurent Wauquiez, qui, quoi qu'il en dise, est fragilisé. Et ça commence déjà à tirer à vue. À la place de Wauquiez, Pécresse démissionnerait de la présidence de LR. Elle vient de l'annoncer il y a quelques instants. Mais c'est la leçon de ces européennes. La fracturation de la droite, la bipolarisation de la vie politique française entre, d'une part, le Rassemblement National, qui, comme en 2014, sort en tête, et le parti présidentiel à moins d'un point. Dans la nuit, l'écart s'est resserré. En termes de sièges, ça fait 22-21. Une fois que le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne, ça fera 23-23. Autre enseignement, c'est la percée des écologistes, 13,5% ce matin, et qui font même plus de voix qu'en 2009, au-dessus de la barre des 3 millions. L'écologie a été au cœur de cette campagne. Elle restera certainement comme un des marqueurs de l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui se fera avec Édouard Philippe. À ceux qui, au sein de la majorité, espéraient un réalignement de la politique présidentielle plus à gauche, ils en seront pour leurs frais. Le réalignement, s'il a lieu, sera écologiste.
Cyril Graziani du service politique de France Inter. J'ajoute que vous recevrez Geoffroy Didier tout à l'heure à 8h20.
À 8h40, exactement, pour le Parti Les Républicains.
L'autre surprise vient des Verts, troisième sur le podium devant les LR avec 13,47% selon les résultats publiés ce matin par le ministère de l'Intérieur. Le score, le meilleur score depuis les 16% de Daniel Cohn-Bendit en 2009. Pour le reste, le duel a donc bien eu lieu lieu entre le Rassemblement national et la majorité, avantage Marine Le Pen, dont le parti arrive en tête du scrutin avec 23,31% des voix. La République En Marche limite les dégâts avec 22,41% des voix. À gauche, le PS et Place Publique de Raphaël Glucksmann parviennent finalement à sauver les meubles et à se hisser au-dessus des 5% à 6,19% au coude à coude avec la France Insoumise qui termine très loin de son score de la présidentielle avec seulement 6,31% des voix. Voilà pour les résultats français à l'échelle européenne maintenant. Ces élections marquent aussi un vrai tournant avec là aussi une très bonne participation, la meilleure depuis 20 ans. Un scrutin qui marque la fin du bipartisme au Parlement de Strasbourg. Les deux groupes parlementaires qui détenaient depuis 40 ans la majorité à eux deux, le PPE et le SED, perdent leur hégémonie. À noter là aussi la forte poussée des Verts grâce à leur très bon score en Allemagne et des partis nationaux et souverainistes qui gagnent du terrain. Exemple au Royaume-Uni où le grand vainqueur d'hier, c'est l'eurosceptique Nigel Farage. Son parti du Brexit arrive largement en tête avec plus de 30% des voix. Antoine Gignot.
Et maintenant, donnez-nous le Brexit. Voilà le slogan à la une du Daily Express. Le Daily Mail parle de séisme et les deux tabloïds publient la photo de Nigel Farage, le leader populiste, tout sourire après son écrasante victoire. Le Brexit Party, lancé officiellement il y a moins de 2 mois, recueille un tiers des voix en Angleterre et au Pays de Galles.
C'est une grande victoire pour le parti du Brexit. Mais ce qui est vraiment important, c'est que dans 5 mois, le 31 octobre, on est censé quitter l'Union européenne. Et maintenant que nous avons un mandat, nous demandons à faire partie de l'équipe de négociation pour préparer ce pays à partir, quelles que soient les circonstances. Nous irons à Bruxelles et nous avons avec nous des hommes et des femmes d'affaires de premier plan. On va se débrouiller.
L'équation n'est pourtant pas si simple. Si on additionne les scores des partis pro-européens, les Verts, les indépendantistes gallois, Change et les libéraux-démocrates, ils arrivent largement au-dessus des eurosceptiques. Sans surprise, les grands partis qui ont, eux, refusé de se positionner pour ou contre la sortie de l'Union européenne prennent une claque historique. 3 sièges seulement pour les conservateurs et 10 sièges pour les travaillistes. C'est presque 2 fois moins qu'en 2014. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Au total, le résultat, c'est un Parlement européen beaucoup plus morcelé, des jeux d'alliances qui s'annoncent très compliqués, notamment pour l'élection à la tête de la Commission européenne. La commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, elle s'est déjà positionnée pour la présidence après l'arrivée en 3e position des libéraux. Sa famille politique, les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent dès demain pour un sommet afin d'échanger sur les prochaines nominations.
Il est 7h38, direction l'Espagne. Sébastien, où l'on votait aussi pour les municipales.
L'Espagne où les socialistes sont arrivés largement en tête aux européennes, près de 32%, le meilleur score des socialistes en Europe. Mais effectivement, aux élections municipales, un ancien socialiste, Uli, a pris une vraie claque. Manuel Valls échoue à prendre la ville de Barcelone. Il était venu pour gagner la mairie de sa ville natale. Mais l'ancien Premier ministre français a perdu en arrivant que 4e au municipal, 13% des voix. Sur place à Barcelone, Mélanie Nunes.
C'est entouré de sa mère, sa sœur et sa femme que Manuel Valls s'avance sur l'estrade. Il reconnaît une large défaite, mais ne s'avoue pas vaincu.
Cela
a pu être difficile.
Qu'un
ancien Premier ministre puisse venir ici, c'est une première étape personnelle, politique, mais je continue. Parce que, premièrement, c'est ma vie, et on ne change pas de vie, de pays et de ville pour repartir en arrière. C'est un engagement pour mes électeurs, c'est ma cohérence et mon éthique politique.
Une défaite qui s'expliquerait, selon Luis, un militant, par ses positions très anti-indépendantistes.
Je l'ai trouvé courageux. C'est pas le bon moment politique pour une personne comme Valls. Mais c'est un premier pied à la politique.
Une première expérience qui peut le mener beaucoup plus loin, souligne Patricia.
J'ai un peu de peine, mais il est venu pour rester, être dans l'opposition. Je suis certaine qu'il va évoluer, car c'est un grand homme politique. Parmi tous nos politiciens, c'est celui le plus à la hauteur.
Sa voisine, verre de vin pétillant dans les mains, lui prédit un bel avenir politique en Espagne. À seulement 56 ans, elle espère, dit-elle, qu'il briguera un jour un mandat national. Barcelone, Mélanie Nunes, France Inter.
Voilà pour cette page européenne sur Inter. On y revient bien évidemment pendant tout le 7-9, Nicolas.
Il est 7h40. Charente, 22 ans après le meurtre de Sophie Toscan-Duplantier. S'ouvre aujourd'hui, Sébastien, le procès de Yann Bailey devant les assises de Paris.
Cet Anglais qui résidait en Irlande, pas loin du lieu du crime, a été suspecté très rapidement, mais les enquêteurs irlandais et français n'ont jamais réussi à établir une preuve formelle de son implication. Yann Bailey, qui nie le crime et pour lequel l'Irlande a refusé qu'il soit extradé, ne viendra pas sur le banc des accusés. C'est donc un procès sans défense qui se tiendra à Paris et au terme duquel Yann Bailey risque une peine théorique de 30 années de réclusion criminelle. Allez, on termine avec du tennis et les premiers résultats. Roland-Garros, retour gagnant hier pour Roger Federer. Après 4 années d'absence, le Suisse numéro 3 mondial s'est imposé en 3-7 face à l'Italien Lorenzo Sonego, soutenu par un public en folie.
C'est ça. 18e participation ici, de retour après 2015, il est Suisse, Roger Federer.
J'ai senti que l'ambiance, elle est différente qu'ailleurs quelquefois. Déjà, énormément d'encouragement, c'est un peu comme avant une finale. Tu sens que c'est autre chose. J'ai manqué au public, moi aussi, ça m'a beaucoup manqué. Plus avoir joué ici pendant des années, ça a quand même créé un certain buzz et je l'ai ressenti beaucoup aujourd'hui sur le central. C'est forcément très cool que c'est comme c'est et j'ai énormément apprécié la réception que j'ai reçue aujourd'hui sur le terrain parce que c'est pas normal pour moi et j'espère que ça continuera comme ça.
Voilà, le Suisse Roger Federer en vedette aujourd'hui, les deux meilleurs joueurs du monde, Novak Djokovic et Rafael Nadal.
Merci Sébastien Legénie.